L'actualité de ce jeudi soir, c'est aussi ce chiffre qui donne le vertige. Regardez, en 18 mois, les prix des produits alimentaires auront augmenté de plus de 23% en France. On est en train d'arriver à ces 23% inflation pas vue depuis des décennies. Et tous les patrons de la grande distribution s'accordent sur ce chiffre et sur le fait que nos habitudes sont en train de changer pour s'adapter face à ces hausses de prix. On va être les plus concrets possibles ce soir pour vous informer avec nos invités. Bonsoir Lucie Bache. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente et cofondatrice de l'application anti-gaspillage Too Good To Go, qui est la nouvelle application fétiche de Géraldine Vosler, qu'il a découvert tout à l'heure, qui ne connaissait pas. Elle est devenue fan en 5 minutes. Vous allez nous expliquer pourquoi. C'est une success story absolument dingue et ça colle parfaitement, j'allais dire, à l'ambiance inflationniste du moment. On va en parler. Bonsoir Philippe Gotsmann.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Fondateur du cabinet de conseil Philippe Gotsmann, c'est bien fait, et expert en grande distribution. Vous regardez évidemment nos changements d'habitude face à cette inflation, changements qui se sont mis en place ces derniers mois, avec un changement tout bête. Le premier, c'est que d'une certaine manière, on commence à moins acheter, à un peu moins acheter.
Un peu moins acheter. Donc on achète surtout moins cher, mais on commence déjà effectivement à avoir une baisse de volume.
Et on achète, par exemple, moins de produits frais, ce genre de choses.
Oui.
On commence à arbitrer très sévèrement pour couper un peu certains budgets.
Oui, le budget alimentaire des Français, il est contraint. Mmh. Il est notamment contraint, et c'est vraiment le sujet qui, moi, me préoccupe chez les plus modestes, parce que les dépenses, ce qu'on appelle les dépenses préengagées, tous les abonnements qu'on peut avoir, les loyers, etc., pèsent extrêmement lourd. Et ce sont des populations qui, en plus, n'ont pas d'épargne et de capacité. Enfin, n'épargnent pas et donc ils n'ont pas d'amortisseur par rapport à la hausse des prix. Donc, quand le budget est contraint, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait attention à ce qu'on achète. Donc, on a tendance à acheter un peu moins. Et à se nourrir, parce qu'on va continuer à manger avec des produits qui sont moins chers. Donc, on descend en gamme, ou alors on va, et c'est ce qu'on observe, abandonner des produits frais pour retourner notamment vers des produits en conserve.
Vous parlez de la revanche du placard.
Oui, c'est le terme que j'ai utilisé il y a quelques mois déjà.
J'aime bien l'expression. Pourquoi la revanche du placard?
Pourquoi? Parce que, je vais le citer, parce qu'un le dirigeant d'un panéliste qui s'appelle Laurent Zeller, il y a quelques années, expliquait que c'était la prise de pouvoir du placard. En fait, dans les années 2010, notre alimentation, et même un peu avant, notre alimentation passait du placard au frigo. Je prends un exemple qu'on a tous connu. Moi, quand j'étais gamin, le jus d'orange, il était en bocal et il était dans le placard. Mmh. Et ces dernières années, la tendance qu'on a tous, c'est d'acheter des jus d'orange, par exemple, au rayon frais. Mmh. Et les pubs télé, vous les voyez souvent, c'était au rayon frais. Le frais était plus qualitatif, c'est incontestable, mais il permettait aussi de valoriser les produits. Et donc, il y avait ce discours...
Valoriser, ça veut dire payer plus cher.
D'inciter les consommateurs à acheter des produits plus chers.
Évidemment.
Et c'est ce qu'on a vécu pendant des années. Ça s'appelait la prise de pouvoir du frigo. Et donc, en clin d'œil, j'ai parlé de la revanche du placard.
Bon, la revanche du placard. La revanche de l'anti-gaspi aussi, d'une certaine manière, Lucie Bache. On rappelle le principe de votre application, Too Good To Go.
Too Good To Go, très simplement, ça nous permet à tous d'acheter des produits qui partiraient à la poubelle en fin de journée à un tiers du prix, un tiers de la valeur auquel ils auraient été vendus dans la journée.
C'est-à-dire que les commerçants, on a l'application, les commerçants autour de chez nous disent « moi, je vends pour un tiers du prix normal ces aliments que sinon j'aurais jetés. Donc venez les récupérer à telle heure et tout le monde peut s'inscrire et récupérer les aliments. »
C'est ça. En tant qu'utilisateur, vous voyez les commerçants partenaires autour de vous, vous payez environ 4 euros sur l'application et vous récupérez au moins 12 euros de valeur de produit dans un panier surprise qui est rempli des produits qui seraient partis à la poubelle 10 minutes plus tard.
Quand on parle de changement d'habitude chez les Français face à l'inflation, face à ces, encore une fois, pardon, mais c'est 23% d'inflation en 18 mois sur les produits alimentaires, on arrive à ces 23%. Qu'est-ce que ça change pour vous et pour ceux qui utilisent votre application?
Pour nous, c'est énorme. On a 30% d'utilisateurs de plus qu'avant la crise. On a 1 million de personnes qui, chaque jour, en France, se connectent à l'application. Et aujourd'hui, il y a 1 Français sur 5 qui a l'application. En fait, c'est vraiment, on le dit, un peu la croisée des chemins. On allie pouvoir économique à engagement écologique. Parce que quand on réduit le gaspillage alimentaire, on aide le changement climatique aussi. Et donc, c'est vraiment cette idée de trouver les solutions qui nous permettent de maximiser nos économies tout en aidant le changement climatique.
Pardon, mais comment vous avez fait pour passer à côté, Géraldine Vosner? Il y a 1 Français sur 5 qui a téléchargé l'appli.
Les applications, j'en ai vu, j'ai pas non plus les Yuka.
Non, mais 1 million de Français se connectent tous les jours sur votre application. Sur ce million-là, combien vont réellement récupérer quelque chose?
Alors nous, aujourd'hui, la problématique, c'est combien de paniers on arrive à mettre en ligne, puisqu'on essaie de... Aujourd'hui, on a plus de 50 000 commerçants qui nous font confiance en France, mais il faut en amener toujours plus. Parce qu'aujourd'hui, la quasi-totalité, on est à plus de 95% des paniers qui sont mis en ligne, sont récupérés le jour même sur l'application. Et donc finalement, c'est pas tant combien de consommateurs se connectent à l'application, c'est vraiment combien de paniers on peut mettre en ligne. Et c'est à ça que les équipes travaillent au quotidien.
Flora Ghebali, votre fan.
Ouais, alors moi je suis fan et utilisatrice de Too Good To Go depuis la création et je recommande bien sûr, mais surtout vous savez on est en période de crise de l'eau, on a un plan de sobriété de l'eau qui a été annoncé aujourd'hui. Malheureusement, on a assez peu parlé de l'impact de l'alimentation sur l'épuisement de l'eau et les sécheresses qui sont à venir, et Too Good To Go c'est une solution formidable parce que il y a un tiers de l'alimentation qui est jetée en France, qui est gaspillée, et c'est un tiers d'alimentation qui a coûté énormément d'eau. Et donc aujourd'hui, on doit être capable de rentrer dans une logique où on regarde les impacts de tout ce qu'on fait. Et donc le meilleur moyen, j'aurais aimé que le président de la République le dise cet après-midi, il ne l'a pas dit malheureusement, le meilleur moyen de faire de la sobriété dans l'eau, c'est d'arrêter de trop produire et c'est du coup d'arrêter aussi de gaspiller. Et donc je suis ravie qu'on ait des solutions comme Too Good To Go.
C'était tout l'objet de notre campagne, parce que c'était la journée mondiale de l'eau justement. En fait, on se rend compte que pour produire une baguette de pain, il faut environ 150 litres d'eau. Et c'est là où on ne se rend pas compte que quand on jette de l'alimentation, comme Flora le disait, on gaspille de l'eau énormément et on gaspille toutes les ressources qui ont été nécessaires pour produire cet aliment.
On reviendra à Too Good To Go dans une seconde, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir que vous êtes maintenant implanté dans pas mal de pays, voir si face à l'inflation, il y a des réflexes différents et si ça marche de la même manière partout. Mais je reviens, Philippe Gossmann, à ce que l'on fait aujourd'hui différemment à cause de l'inflation. La chasse aux promos, on se souvient, on a vu 1000 reportages sur des gens qui sont accros complètement, qui collectionnent des coupons, etc. Ça s'est totalement, étendu, démocratisé, etc. Il y a de plus en plus de personnes qui font leurs courses en fonction des promos.
Bien sûr. Alors, sur le fond, ça y a rien de nouveau sous le soleil. Ça a toujours
le principe de la promo, on connaît.
Ça a toujours été. Et d'ailleurs, contrairement à ce que beaucoup pensent sur la promo en France, on a des législateurs qui essayent de limiter ça. La France n'est pas un pays qui est plus promophile que d'autres. Il y a des pays qui le sont plus que nous. En revanche, c'est certain que dans le contexte, les clients regardent de façon extrêmement attentive les produits, enfin les prix proposés. Ils ont une tendance d'ailleurs à zapper plus. On observe depuis un an une augmentation du nombre de magasins fréquentés. Ils vont chercher les meilleures affaires. Et ils font d'ailleurs leurs courses depuis un an plus souvent avec des plus petits paniers. C'est-à-dire qu'ils vont augmenter la fréquence des courses, sans doute aussi peut-être pour limiter le gaspillage, parce que quand on fait des courses plus souvent, on achète des produits où on est moins, on risque moins le problème des dates limites. Donc on a des habitudes qui changent de ce point de vue-là.
On va plus souvent, effectivement, il y avait des chiffres, Kantar, un institut qui vérifie tout ça, qui observe la manière dont on consomme, plus 4,9% de passages en magasin l'année dernière, mais nombre d'articles achetés à chaque passage est en baisse de 4,5%.
À peu près.
Ça colle à peu près. Il y a quand même un sujet sur les promos, Géraldine Vosner, parce que en France, les grands magasins, enfin la grande distribution, etc., est limitée dans les promos qu'elle peut faire.
Depuis les lois Egalim, oui.
Depuis les lois Egalim, absolument.
C'était pour garantir un revenu aux agriculteurs.
Aux agriculteurs.
Quelque chose de très bien. Maintenant, Philippe Gossmann sera sans doute mieux que moi. Est-il possible que les négociations qui se sont achevées récemment entre distributeurs et fournisseurs soit rouverte pour tenir compte d'une baisse des coûts d'énergie, parce que ce qui fait aussi grimper les prix de l'alimentaire, c'est cette hausse des prix de l'énergie. Là, le pétrole baisse. Est-ce que c'est une possibilité?
Le ministre de l'économie l'avait annoncé lorsqu'il a présenté avec l'ensemble des dirigeants de la distribution il y a une quinzaine de jours son trimestre d'inflation. Il a annoncé une réouverture des négociations au mois de juin. La semaine dernière, dans une matinale.
Surtout enterrer le panier anti-inflation.
Plus rapidement.
Oui, mais enfin, il a demandé à l'ensemble des distributeurs de le faire et ils ont
transformé en trimestre.
Non, mais ça devrait être fait.
Mais Bruno Le Maire, la semaine dernière, sur un autre plateau, enfin, sur un plateau télévisé un matin, a redit cette réouverture et il a cité le mois de mai. Donc l'échéance semble se rapprocher.
Mais c'est des choses qui sont assez, qui peuvent paraître un peu incompréhensibles quand on est à l'extérieur. Oui. Pourquoi est-ce qu'on négocie pas en permanence?
Vous avez reçu également
Michel-Édouard Leclerc hier soir. Je pense qu'il est pas loin de se poser la question.
Il faut sortir du débat franco-français autour de ça. Il faut juste constater que on est le seul pays au monde où il y a ce type d'encadrement des négociations. Et contrairement à ce qu'on aurait pu en espérer, on est celui où industriels et distributeurs dans des panels qui sont organisés pour ça déclare que c'est le pays où la négociation est la pire au monde. C'est-à-dire qu'on a le climat de négociation le pire au monde et le plus encadré au monde. J'ai tendance à penser qu'il y a un rapport.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on a mis du droit partout, on ne fait plus de commerce, et c'est un énorme problème. Mais globalement, on est un pays qui aime bien la norme, qui aime bien
encadrer. Et c'est notre passion pour l'encadrement, pour la norme, qui fait qu'on a
la concurrence.
Mais globalement, c'est quand on parlait des conséquences sur environnementales de cette inflation alimentaire, c'est aussi un risque de hausse des importations toujours plus important, puisque on a une agriculture qui est très exigeante en France, l'une des plus exigeantes au monde en termes de normes, de réglementations. Ce qu'on produit coûte cher à produire, et on voit avec l'effondrement des ventes
bio. On a protégé un peu nos agriculteurs justement pour qu'ils
aient... on ne paye pas la nourriture qu'on mange, on ne la paye pas à son juste prix.
Oui, mais enfin, ils se sont plutôt satisfaits des lois votées récemment que de la situation antérieure.
Non, mais je ne dis pas ça, je dis simplement que le consommateur ne pouvant pas payer et demandant des produits moins chers, c'est des produits qu'on a. On importe déjà 40% de nos légumes, 60% de nos fruits, donc parce que les produits français sont trop chers.
Géraldine Vosner a raison. En fait, on
produit moins.
Le problème qu'on a sur l'alimentation, de mon point de vue, c'est pas tellement l'inflation qu'on vit là, même si elle est douloureuse. Parce que pour beaucoup de produits de marque, les prix qu'on a aujourd'hui sont à peine supérieurs de quelques pourcents à ce qu'ils étaient il y a 10 ans. On a parlé il y a quelques années sur vos plateaux de la guerre des prix. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut bien constater cependant que les prix de l'alimentation en France sont, je vais parler avec 3 mois de recul parce que c'est difficile d'avoir des stats au jour le jour, mais sont les plus chers de toute l'Europe de l'Ouest, à part la Suisse et le Luxembourg. Donc on a un problème qui n'est pas un problème d'inflation, qui est un problème de niveau de prix et d'incompatibilité de nos prix en France avec les salaires des Français. Je vous donne juste un calcul que j'avais fait, on va pouvoir le refaire dans un mois. Je l'avais fait au moment du Covid, mais c'est les mêmes tendances. Un smicard français, pour se payer 1 kilo de fraises françaises ou de courgettes françaises ou d'asperges françaises au mois d'avril, devait travailler 3 fois le temps de travail d'un smicard espagnol pour se payer la même quantité de marchandises.
Après, il y a un vrai enjeu de qualité de l'alimentation, de qualité des sols, de qualité de notre agriculture.
C'est incontestable.
Aujourd'hui, il reste 10% des agriculteurs qu'on avait dans les années 50.
C'est incontestable. Oui, mais de 1 à 3...
Donc, il y a un vrai sujet de quelle alimentation on veut aussi et quel prix on est prêt à mettre dans notre alimentation.
Mais je pense que dans le rapport de 1 à 3, on doit pouvoir régler la qualité, probablement, et je partage tout à fait ce point de vue, et constater aussi que la filière alimentaire, qui est une filière de main-d'œuvre et une filière foncière, elle porte un poids fiscal, social et des surtranspositions de normes à un niveau complètement dingue et on est en train de l'étouffer.
Benjamin.
Et politiquement, le gouvernement est un petit peu coincé parce qu'on a Bruno Le Maire qui effectivement avait tenté d'annoncer ce trimestre anti-inflation qui était une façon d'enterrer le panier anti-inflation, une façon au fond d'assumer que c'était à la grande distribution de faire un effort. Parce que l'État ne peut pas tout, parce que les caisses sont vides, parce que faire un chèque alimentaire, c'est difficile. Donc, on a renvoyé ça à la possibilité d'expérimenter à l'échelle locale. Mais honnêtement, ça paraît très difficile parce que si vous faites un chèque alimentaire, qu'est-ce que vous mettez dedans? Quel circuit vous favorisez? Absolument, vous avez tout à fait raison. Et après, vous avez la pression des oppositions qui, Jean-Luc Mélenchon dit, il faut bloquer les prix. Ça crée toute une série de difficultés. C'est pas monsieur que je vais apprendre ça. Et après, vous avez Marine Le Pen qui dit, il faut faire un panier de biens essentiels à 0% de TVA. Et là, vous avez des exemples. C'est ce que l'Espagne a fait sur toute une série de produits. C'est ce que le Portugal, je crois, aussi récemment.
Ouais, surtout sur le panier.
Voilà, s'y met. Et à cela, le gouvernement dit 2 choses. Dit 1, ça coûte très cher. 3 choses. 1, ça coûte très cher. 2, vous n'êtes pas sûr que ça se répercute dans les prix. Ou plus exactement, ça peut se répercuter au début. Et ensuite, il y a un rééquilibrage. L'exemple de la TVA sur la restauration qui a été baissée était quand même un exemple assez éclairant. Et le troisième argument, c'est que c'est antisocial. Parce qu'en réalité, si vous baissez la TVA, ça veut dire que vous la baissez pour tout le monde. Et ça veut donc dire que proportionnellement, vous favorisez en termes de masse financière l'aide à ceux qui achètent le plus, donc potentiellement ceux qui sont les plus favorisés. Donc ça montre aussi que on parle beaucoup des retraites en ce moment. On parle, Emmanuel Macron dit, il y aura les grands sujets structurants, l'école, la santé, l'éducation. Mais il y a ce sujet des prix alimentaires, de l'inflation, face auquel le pouvoir politique est un peu démuni.
Lucie Bache, vous êtes présente dans 17 pays maintenant ?
C'est ça, 15 en Europe et les États-Unis et le Canada aussi.
C'est juste dingue. Pardon, petite parenthèse, moi je vous ai reçu il y a 6 ans quand vous lanciez sur une radio, sur Europe 1. Il devait y avoir 10 salariés à l'époque, enfin j'exagère. Vous avez 1200 salariés maintenant, présents donc dans 17 pays. Quelle différence vous voyez entre les pays dans les manières dont on consomme ou dans les manières dont on essaie de lutter contre le gaspillage?
Je pense que globalement, il y a un vrai soulèvement général de allier justement ces solutions écologiques et économiques. Donc nous, aujourd'hui, on a plus de 75 millions de consommateurs sur Too Good To Go dans ces 17 pays. Ça ne fait qu'augmenter d'année en année. Je dirais que c'est assez uniforme, le nombre d'utilisateurs qui se connectent. Après, il y a un vrai sujet d'accessibilité de l'alimentation. Et ça, je pense que c'est général aux États-Unis. C'est encore pire qu'en Europe dans beaucoup d'États, malheureusement.
C'est-à-dire d'accessibilité, c'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent plus se nourrir, en fait. Et il y a des gens aujourd'hui qui se nourrissent intégralement avec Too Good To Go. Si vous récupérez un panier par semaine en moyenne sur Too Good To Go, vous économisez déjà 500 euros sur votre budget alimentaire. Donc, c'est des vraies économies qu'on peut faire. Et moi, je pense que c'est tout l'enjeu, c'est de trouver les solutions qui nous permettent de ne pas opposer crise écologique et crise économique, mais vraiment de rallier les deux. Et il y en a des solutions.
C'est-à-dire que Too Good To Go, je vais faire une énorme pub, Too Good To Go, non, mais la chasse au gaspille, ça permet de à la fois lutter contre l'inflation et de lutter contre le gaspillage, donc de trop tirer sur ce que peut nous donner la Terre, etc.
Le gaspillage alimentaire, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. On le disait, c'est un vrai sujet d'utilisation de l'eau qui est gaspillée également. Donc en fait, en réduisant le gaspillage alimentaire, on crée de la valeur économique, mais on a aussi un impact positif sur tous les sujets de l'écologie. Et notamment, c'est un vrai sujet social, puisqu'aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui se nourrissent grâce à Too Good To Go et qui ont multiplié leur pouvoir d'achat par 3.
Et ça veut dire que quand vous analysez le million de personnes qui se connectent tous les jours, qui se connectent chez vous?
Il y a vraiment de tout. Il y a beaucoup d'étudiants, mais il y a aussi des retraités. Il y a des familles qui sont sensibles au concept. Mais c'est ça qui est assez hallucinant, c'est qu'en fait, on n'a pas de persona type. C'est vraiment, on voit que c'est un problème qui est pour le coup partagé par tous les Français, par tous les Européens et par énormément de monde aujourd'hui.
Ouais, évidemment, c'est en train d'irriguer parfaitement. On a quelques chiffres que je voulais montrer quand même. On parlait tout à l'heure des promos. On va voir ça parce que c'était un sondage d'Aris Interactive qui avait été réalisé récemment. Je crois que c'était au mois de février. Si on peut voir le résultat, notamment des Français. Avec les promos, les Français ont-ils plus recours aux promotions? Oui, 75%. Ça, c'est net et sans appel. On en parlait à l'instant, Philippe Gossmann. Les Français et le budget de leurs courses. Regardez ce que ça donne. Voilà la question qui avait été posée. Les Français renoncent-ils à certaines dépenses pour garder un budget alimentaire équilibré? Oui, à 67%. Là aussi, c'est sans appel. Et dernière chose, les Français et les privations. Est-ce que les Français mangent moins? Non, 51%. Oui, à 49%. Hier soir, on recevait Michel-Edouard Leclerc. On a eu un certain nombre de débats autour de la table et notamment autour des plats préparés. Parce qu'un certain nombre, notamment d'instituts de sondage, etc., ont repéré qu'il y avait plus d'achats au niveau des plats préparés parce qu'on a une portion exacte de la chose. Il y a moins de gaspillage d'une certaine manière et ça coûte pas beaucoup plus cher à fabriquer, entre guillemets, que si on le faisait à la maison. Michel-Edouard Leclerc remettait ça en cause en disant, oui, c'est peut-être aussi qu'il y avait des stocks de plats préparés à liquider, et donc ça fait mathématiquement augmenter les ventes.
Oui, on observe ça, effectivement, mais là aussi, c'est une tendance qui est très longue. La réalité, je crois, sur les plats préparés, elle n'est pas liée à un élément conjoncturel. Elle est liée, en fait, à l'évolution de la structure des ménages, contrairement à ce qu'on peut se dire et avoir plaisir à se dire. Et le Covid nous a beaucoup amené à parler de ça. On cuisine de moins en moins chez soi. Je donne un chiffre. Si on parlait d'un point de vue économique, la productivité des cuisines qu'on a chez nous, dans nos appartements, dans nos... combien de repas on produit dans une année? Elle a baissé de plus de 15%.
Chez Benjamin Jamelet, on est proche de zéro.
Mais voilà,
je vous l'assurez.
Pourquoi l'attaque personnelle.
Répondez, mais on n'est pas loin, j'ai pas loin de la vérité.
Et Maxime, pourquoi elle baisse? C'est pas simplement parce que la mode, ou c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est que, et on en parle beaucoup en ce moment, on parle beaucoup de démographie en ce moment, la taille moyenne des ménages a considérablement baissé. Et quand vous faites un pot-au-feu, si vous le faites pour 4 ou pour 2, c'est le même boulot. Et donc, vous ne le faites plus.
Bruno fait des pot-au-feu. C'est sa spécialité, non?
La taille moyenne des ménages... J'insiste sur ce chiffre qui, pour moi, est très important. La taille moyenne des ménages, ça peut être un peu abscon comme ça. Je vous le traduis en appartement sur une période longue. En 70, pour loger 100 personnes, il fallait 32 logements. Il en faut 46. Et donc, ça illustre à la fois la pression de l'immobilier, mais le fait qu'on est très peu nombreux à la maison, et de moins en moins, notamment dans les métropoles.
Et donc, paniers, quoi.
Et donc on se fait livrer, ou on achète des plats cuisinés, ou on prend un plat. Mais cette question
des plats cuisinés, elle est très intéressante, parce que déjà, les plats cuisinés, c'est parce qu'on est moins, mais c'est aussi parce qu'on travaille plus.
Et le taux d'actif a augmenté.
Et que, voilà, et qu'on travaille plus tard, et maintenant de plus en plus tard. Mais par contre, ce que ça dit sur cette question des plats cuisinés, c'est que les plats cuisinés, il y a plein d'études qui le montrent, c'est aussi extrêmement mauvais pour la santé. Et en fait, aujourd'hui, on en revient, les plats transformés, c'est mauvais pour la santé, c'est dit dans tous les rapports. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on en revient toujours à ces deux visions du monde dont on parlait plus tôt dans l'émission, qui est de dire, est-ce que la crise alimentaire qu'on vit en ce moment, il faut y répondre en produisant plus, produisant à l'étranger, important plus, faisant des bassines de l'agriculture intensive et transformant notre agriculture comme en Californie,
pour nourrir tout le monde.
Comme en Californie. Non mais justement, ou alors je vais juste aller au bout de ce que je suis en train de dire. Comment on fait pour nourrir tout le monde? Il se trouve qu'en ce moment on jette un tiers de ce qu'on produit, et Lucie Bache ici présente pourra vous confirmer. Donc on a ces deux visions du monde, et c'est en ça, vous allez encore me gronder quand je vais prononcer ce mot, mais c'est en ça que c'est quand on dit que le problème est systémique, ça veut dire qu'il y a un problème de système. Et donc moi, le président de la République, quand il dit on va travailler plus, mais par contre on va, mon premier sujet ça va être la santé des gens, et ben non, quand il y a 50% des gens qui mangent moins parce que à cause de l'inflation, quand les gens mangent, excusez-moi, des choses qui sont mauvaises pour leur santé et mauvaises pour eux, quand on importe, et donc on a deux solutions, soit on va encore tout droit vers le chaos, soit on prend les problèmes les uns après les autres et on mélange un peu tout,
si je puis me permettre simplement, on parlait de la question de l'eau, là des enjeux aujourd'hui de la préservation et des économies de ressources, c'est d'être capable de continuer à produire assez sur notre sol avec nos méthodes d'agriculture,
justement,
plutôt que d'importer.
Justement, c'est toujours en fait vos solutions. Vos solutions, c'est toujours en fait de soigner le symptôme et pas la maladie. Et donc les bassines. Non, on produit pas sans eau. On régénère nos eaux et on régénère nos sols plutôt que de faire des bassines qui vont être une solution.
Je parle pas des bassines, je parle des sols.
On va pas refaire le débat sur les bassines et sur l'eau. Lucie, je voulais intervenir.
Là où je rejoins Florent. C'est que c'est comment est-ce qu'on se nourrit en fait, et quel temps, quel argent on attribue à notre alimentation, une alimentation de qualité qui doit régénérer les sols plutôt que de continuer à puiser au maximum. Et quand on voit qu'effectivement on dépense de moins en moins d'argent dans notre alimentation systématiquement, décennie en décennie, mais que par contre les taux d'obésité explosent, et notamment en France, là on se dit qu'il y a un vrai problème.
Attendez, il y a un autre problème. Je vous donne la parole, Philippe Gossman. Il y a un autre problème. Il y a une statistique que vous donnez, c'est qu'on gaspille autant en France qu'on importe d'alimentation.
Exactement.
C'est équivalent, grosso modo.
Il y a un problème systémique d'alimentation, et il faut au contraire repenser notre système alimentaire dans son ensemble. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, typiquement le gaspillage alimentaire, c'est un symptôme énorme. Il faut revenir à la source du problème, rééduquer les gens par rapport à leur alimentation, rapprocher la fourche de la fourchette et se poser les vraies questions sur le long terme. Parce qu'effectivement, sans vouloir reparler des bassines, il y a d'autres moyens d'avoir une agriculture qui va puiser l'eau au bon endroit et qui est long terme, en fait.
Philippe Gossman.
Oui, je partage évidemment d'abord les enjeux de gaspillage, et je suis absolument convaincu, vous avez raison, il faut qu'on consomme moins, on peut en fait être tout aussi satisfait de notre alimentation avec moins de production. Ça renvoie à ce que fait Lucie remarquablement, mais aussi au comportement des gens chez eux, au grammage des produits, à plein de sujets. En revanche, il y a deux choses que j'ai entendues, je suis pas d'accord. D'abord, même si on peut évidemment améliorer notre alimentation, on n'a pas de mauvaise alimentation en France. Moi, je suis très simple. L'espérance de vie n'a cessé de progresser. Elle stagne un petit peu en ce moment, mais elle n'a cessé de progresser. Et elle n'a cessé de progresser au moment où la production alimentaire française était la plus, par rapport à nos normes aujourd'hui, serait la plus décriée. Et donc, mon propos n'est pas de dire qu'il ne faut pas changer. C'est de dire qu'il faut simplement se décontracter avec le sujet et progresser. Ensuite, sur le budget alimentaire. J'entends ce que dit Lucie Bache, et ça a beaucoup été répété. Mais regardez, je dis pas ça pour contredire, mais pour partir du réel. La réalité, c'est que c'est faux. Effectivement, le budget alimentaire des Français était de 30% du budget.
Ça s'appelle contredire. Mais c'est pas grave, Philippe Gottesman. Ça s'appelle contredire.
C'est fait avec beaucoup de bienveillance.
Non, je dis, le budget alimentaire des Français représentait 30% du pouvoir d'achat, à peu près, il y a 60 ans.
Aujourd'hui, c'est plus de 15%.
C'est de l'ordre de 15%. OK. Et alors, statistiquement.
Et alors, on dépense moins d'argent dans notre alimentation.
Chaque Français, chacun autour de la table et les téléspectateurs dépensent aujourd'hui en euros constants, et c'est ça qui compte, près de 3 fois ce qu'ils dépensaient il y a 60 ans. On dépense, beaucoup plus qu'à l'époque. Simplement, on s'est considérablement enrichi, donc on a d'autres activités. Mais il y a une chose importante, c'est la loi d'Engels, un statisticien allemand dans les années 1850 qui le démontre, c'est qu'une fois que vous avez mangé un poulet par jour, vous n'allez pas en manger un deuxième, et donc le surcroît de revenus, vous le dépensez ailleurs. Cette loi statistique est démontrée mondialement dans tous les pays, et le niveau de dépenses alimentaires des Français, quand on regarde l'ensemble des pays, quand on regarde l'histoire, est parfaitement normal. Je ne dis pas qu'il ne devrait pas progresser, mais il est normal.
Attendez, Lucie Bache.
En attendant, les producteurs peuvent plus se nourrir et leur rémunération ne fait que de baisser.
C'est pas vrai non plus.
Il y a 27 fermes par jour qui ferment.
Le revenu agricole a augmenté 70% en 2 ans.
Si je peux juste dire quelque chose sur ce que vous avez dit, vous dites qu'aujourd'hui l'espérance de vie stagne, mais qu'elle ne baisse pas. Alors il y a des rapports qui montrent qu'elle baisse, qu'on a atteint le pic et que maintenant elle baisse. Mais ça ne baisse pas trop parce qu'on a aussi les chimiothérapies. Chimiothérapies pour soigner les cancers, qui sont plus les études avancent, plus on le montre.
Je veux juste apporter une précision sur le lien
entre l'alimentation et la santé. Parce qu'aujourd'hui, il y a des études, on peut encore créer des chimiothérapies et des choses pour soigner les symptômes. Quand est-ce qu'on va prendre les problèmes à la racine? Quand est-ce qu'on va comprendre qu'on a une maladie mortelle, tous ensemble, et qu'il est temps de la soigner à la racine?
C'est l'agriculture qui provoque le cancer. C'est ça que vous dites.
Il y a quand même un lien entre l'alimentation et les cancers. Vous dites qu'il n'y a pas de lien.
Mais bien
alors,
sûr
madame, vous êtes journaliste au point. Et vous soutenez sur ce plateau télé qu'il n'y a pas de lien entre les cancers et l'alimentation.
Elle vous dit que oui.
Je viens de dire que oui. Mais ne dites pas qu'il y a une augmentation, c'est l'inverse. Ça baisse.
Et l'augmentation des cancers est liée à l'augmentation de l'espérance de vie. On en a plus parce qu'on vit plus longtemps. Comme les Alzheimer, c'est plus parce qu'on vit plus longtemps.
Je reviens à notre sujet de départ, autour de l'inflation et de la bonne et de la malbouffe et de l'anti-gaspillage. Si on commence à être tous vertueux, vous perdez votre boulot, Lucie Bache.
Oui, ça, c'est pas un problème pour moi. La bonne nouvelle de ce monde, c'est qu'il y a largement assez de problèmes pour créer des entreprises qui viennent les résoudre. Oui. Moi, je suis une fervente. Je suis convaincue que l'entreprise aujourd'hui doit avoir un rôle sociétal et que tout le but de l'entrepreneuriat impact, c'est justement de venir se saisir des problèmes des sociétés et de leur apporter des solutions qui, pour le coup, conjuguent vraiment impact écologique, économique et social. Et je pense que ce triptyque, il faut le garder en tête de manière permanente et qu'il faut arrêter de traiter d'un côté l'économie, de l'autre côté l'écologie, de l'autre côté le social. En fait, ça ne marche plus. Et on est obligé de trouver ces solutions. Ça veut dire réinventer énormément de choses. Ça veut dire réinventer toutes nos industries et y compris celle de l'alimentation. Mais on doit changer le paradoxe. Et en fait, quand on parle de bénéfices, il faut arrêter de considérer uniquement le bénéfice financier. Il y a aussi vraiment un bénéfice sociétal que toutes les entreprises aujourd'hui se doivent de considérer.
Et vous, comment vous vous financez?
On se finance avec de l'argent. Parce qu'on est dans un monde capitaliste et qu'on a...
Non, c'est pas la question que je pose. Okay. À quel moment est-ce que vous gagnez de l'argent?
On a un modèle économique qui est que quand on réduit le gaspillage alimentaire, on crée de la valeur économique. Donc sur les 4 euros que vous payez sur l'application, il y a environ 1 euro qui va pour Too Good To Go et 3 euros qui revient aux commerçants. Et là, encore une fois, notre modèle économique, on l'a pensé de façon à aligner parfaitement nos intérêts écologiques. Moi, tous les matins, je me réveille en regardant combien de repas j'ai sauvé la veille. Et ça, c'est aligné à mon chiffre d'affaires.
Et donc, si je comprends bien, si je reviens au début de notre conversation, si vous avez un appel à lancer ce soir, c'est un appel aux commerçants, en réalité, pour avoir de plus en plus de commerçants pour participer à
tous les commerçants alimentaires, que ce soit de la grande distribution, des commerçants de quartier, des hôtels, la restauration collective. Aujourd'hui, on travaille avec tout le monde. On se renforce complètement sur les industriels aujourd'hui, parce que de gaspillage alimentaire, il y en a absolument partout. Et nous, aujourd'hui, on a une solution avec 13 millions de Français qui n'attendent que de récupérer ces paniers.
Et ça progresse tous les jours. Je veux dire, les commerçants, tous les jours, vous avez des nouveaux appels.
Tous les jours, tous les mois, on a des milliers de commerçants qui nous rejoignent et des centaines de milliers de
visiteurs. Et juste une chose, par exemple, la grande distribution, comment est-ce qu'elle vous accueille?
Très bien. Aujourd'hui,
tous
à bras ouverts. Avec la majorité des enseignes, et ça ne fait que se développer. Après, on a un vrai enjeu d'être sur tous les magasins, tout type de format, et surtout que on vienne récupérer chaque petit panier de nourriture. En fait, il n'y a pas de petit gaspillage. L'idée, c'est de venir vraiment arriver au zéro gaspillage. Il y a un label anti-gaspillage qui vient d'être lancé par le gouvernement pour aller qualifier les magasins qui s'engagent concrètement dans la lutte anti-gaspillage. Too Good To Go aide les magasins à l'obtenir. Et l'idée, c'est vraiment d'aller vers des magasins qui sont où il y a l'interdiction de jeter. En fait, on peut plus se permettre de jeter de l'alimentation quand aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont faim et qu'en plus, ça vient complètement à l'inverse de nos enjeux climatiques.
Merci Lucie Bache. Merci d'avoir été avec nous. Too Good To Go pour Benjamin Duhamel pour télécharger.
C'est fait. C'est téléchargé.
Pendant l'émission, très bien. Merci Philippe Gutzmann. Il y a une appli à télécharger, gutzmann.com. Il n'y a pas encore. Bon, bah tant pis. Merci Flora, merci Bruno Jeudy. Merci Benjamin, merci Géraldine Vosner. Merci à vous d'avoir été fidèles à BFM TV à 22h.